Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à vous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir avec le journal dans quelques secondes. 19h15, la carte blanche de l'écrivain Philippe Besson comme chaque lundi. Xavier Bertrand en 2022, il n'y croit pas, il nous dira pourquoi. 19h20, le grand débat du Club des Idées consacré ce soir à la folie des paris en ligne qui connaissent une croissance, on le verra, fulgurante. On peut désormais parier sur presque tout. De plus en plus, les jeunes s'y mettent d'ailleurs. Alors peut-on vraiment gagner des fortunes avec ces paris? À qui profite cette manne de plusieurs milliards d'euros? Et attention aussi aux addictions, c'est important. On en parlera avec nos invités. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Un texte fleuve et des milliers d'amendements. Le projet de loi climat et résilience arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Plusieurs visions de l'écologie qui s'affrontent.
Face à l'explosion des cas de Covid et à la saturation des services de réanimation, Emmanuel Macron mise tout sur la vaccination. La campagne va encore s'accélérer, promet le chef de l'État.
La colère monte à l'école. Pression pour demander la fermeture pure et simple des établissements.
Le scandale du Mediator. Les laboratoires Servier reconnus coupables et condamnés. Les parties civiles dénoncent une amende dérisoire.
Aux États-Unis, au procès de Derek Chauvin, la diffusion cet après-midi de la vidéo de l'agonie de George Floyd. Et puis le nom de Valéry Giscard d'Estaing sera désormais accolé au nom des musées d'Orsay et de l'Orangerie à Paris.
La météo avec Anissa Haddadi, sortez les lunettes de soleil, journée estivale en prévision demain.
Oui, une journée digne d'un mois de juin, effectivement Julien, avec des températures en hausse et du grand et beau soleil, sauf au bord de la Méditerranée où là c'est un petit peu plus gris, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les députés se lancent dans un marathon législatif de 3 semaines. Le très contesté projet de loi climat et résilience arrive donc en débat à l'Assemblée. Texte issu des 149 propositions de la Convention citoyenne.
Près de 7000 amendements ont été déposés. Preuve des clivages que ce projet de loi cristallise, Claudia Bertram.
Oui, ce sont des approches de l'écologie différentes qui se font face dans l'hémicycle. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a défendu à la tribune une loi d'écologie pratique de bon sens, dit-elle.
Cette loi, c'est une véritable bascule culturelle globale qui fera de l'écologie une réalité du quotidien pour assurer l'avenir du pays en responsabilité, en s'attelant à ce qu'il y a de plus ordinaire, de plus basique, mais aussi de plus crucial, nos modes de vie.
Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est d'emblée opposé à la loi.
Elle ne comporte pas les mesures concrètes indispensables qui sont à notre portée et que vous avez décidé de ne pas prendre.
Le texte du gouvernement est vivement critiqué par la gauche, les écologistes, les ONG, qui fustigent son manque d'ambition et le détricotage des mesures de la Convention. Des critiques que relaie la députée écologiste Delphine Bateau.
Le projet de loi tourne le dos aux 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Elle tourne le dos aux attentes et aux exigences de la jeunesse qui a manifesté encore hier. Je me bats pour une vraie loi climat. Je me bats pour un débat sans filtre aussi.
Des parlementaires écologistes ont lancé leur propre débat en parallèle sur le réseau social Twitch. La droite compte, elle, monter au créneau contre ce qu'elle considère être une écologie punitive pour défendre son propre logiciel écologique.
Claudia Bertram à l'Assemblée nationale pour Europe 1.
Les derniers chiffres concernant la situation sanitaire, ils sont mauvais. Le taux d'occupation des services de réanimation est désormais de 89%. Le nombre de patients atteints du Covid en réa continue d'augmenter, 4974. Ça veut dire que le pic de la deuxième vague est désormais dépassé et ces patients sont de plus en plus jeunes. On reste néanmoins en dessous du pic de la première vague où jusqu'à 7000 malades étaient en réanimation. En tout cas, face à cette situation qui se dégrade et aux appels de plus en plus pressants du monde médical, l'exécutif mise tout sur la vaccination.
Oui, Emmanuel Macron était d'ailleurs à Créteil cet après-midi en banlieue parisienne pour échanger justement avec les opérateurs d'une plateforme d'appel, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, Julien, une plateforme qui appelle notamment les personnes de plus de 75 ans non vaccinées. C'est le dispositif du Aller Vert dont avait parlé Emmanuel Macron la semaine dernière. Aller Vert, une partie de la population qui serait éventuellement loin des systèmes de soins, qui n'aurait pas de médecin traitant ou de référent. Emmanuel Macron a donc pu écouter les échanges entre les opérateurs et les patients. L'enjeu est de faire de la pédagogie, d'expliquer comment obtenir le plus rapidement possible un rendez-vous. À Créteil, il y a 24 opérateurs qui se relaient 7 jours sur 7. Un numéro vert sera sera mis en place mercredi pour joindre ce service directement. L'objectif demandé par le président au patron de la Sécu, c'est que d'ici un mois, 80% de cette tranche d'âge des plus de 75 ans soient vaccinés. Car oui, la vaccination, c'est la solution mise en avant par l'exécutif, celle qui aurait dû permettre de ne pas vivre cette troisième vague. La réalité, on le voit, est tout autre, mais ça reste le moyen le plus sûr de surmonter durablement cette épidémie. Et c'est pourquoi l'exécutif veut accélérer.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. En attendant les vaccins, comment gérer le casse-tête du Covid à l'école?
Vous savez que depuis aujourd'hui, dès qu'un cas est détecté dans une classe, eh bien cette dernière doit fermer immédiatement, en tout cas dans les 19 départements concernés par les dernières mesures de restriction les plus strictes. Et c'est évidemment très compliqué à mettre en place. La journée a été difficile, Virginie Riva.
Ce que je peux vous dire des remontées de terrain, c'est que c'est une première journée décrite comme chaotique. À ce stade, on en est surtout au traçage des élèves positifs, car il a fallu identifier les cas déclarés depuis samedi. Certaines classes ont été fermées dans la journée, mais ça prend du temps car il faut joindre les parents. La difficulté, c'est qu'on n'a pas encore de chiffres officiels relatifs à ces classes fermées. Le ministère de l'Éducation nationale dit attendre avant de demander des remontées, officiellement pour ne pas charger la barque des directeurs d'établissement qui doivent déjà gérer le nouveau protocole. Mais le SNES, syndicat majoritaire du second degré, lance de son côté en ce moment même son propre traçage de toutes les classes fermées. Face à l'explosion de cas et aux difficultés pour mettre en place ce nouveau protocole, le ton des syndicats commence à changer. Ils se demandent, et c'est notamment le cas à l'UNSA, si maintenir des établissements où seulement la moitié des classes seraient ouvertes a du sens, surtout si les personnels manquent.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. Notez que l'UNSA, RATP, premier syndicat de la régie des transports publics d'Île-de-France, demande que ses agents en contact avec le public soient le plus rapidement possible vaccinés contre le Covid, car ils sont particulièrement exposés au virus. Et puis, le conseil scientifique s'en remet à l'exécutif sur la tenue des régionales en juin, mais il préconise prudence et aménagement. Il recommande notamment la vaccination des candidats et des membres des bureaux de vote et regrette que le vote par correspondance ne soit pas envisagé. Une reprise de l'épidémie sous forme de cluster après les élections n'est pas exclue, dit-il.
19h06, la suite du journal. Des milliers de victimes, 10 ans de procédure. Enfin, le jugement aujourd'hui dans le procès du médiateur.
La fin d'une très longue attente pour les victimes. Les laboratoires Servier reconnus coupables de tromperie aggravée, d'homicide et de blessures involontaires et une amende dérisoire pour maître Charles-Joseph Houdin. Il est l'avocat de nombreuses parties civiles.
Les laboratoires Servier sont condamnés à une amende, j'arrondis les chiffres, de 2 millions d'euros. Les laboratoires Servier, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par jour. Donc c'est quelques heures de chiffre d'affaires pour les laboratoires Servier. Ensuite, les laboratoires Servier sont condamnés à verser aux victimes environ 160 millions d'euros. C'est extrêmement faible au regard du profit réalisé par le médiateur. Là aussi, j'arrondis, 400 millions d'euros pendant les 14 années de commercialisation indue. On peut résumer que le Mediator reste une opération juteuse pour les laboratoires Servier. Et en ce sens, mes clients sont en train de réfléchir très sérieusement à faire appel de la décision sur les intérêts civils. C'est inadmissible d'envisager qu'il reste 1 euro de profit dans la poche des laboratoires Servier.
Maître Charles-Joseph Houdin, avocat de milliers de parties civiles dans ce procès du Mediator. Il était au micro européen de Gladys Laffitte. Notez que l'Agence nationale de sécurité du médicament a également été condamnée à plus de 300 000 euros d'amende. Le tribunal estime qu'elle a failli dans son rôle de police sanitaire et de gendarme du médicament.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h09, la suite du journal. Direction donc Minneapolis aux États-Unis où se tient le procès de Derek Chauvin, ce policier blanc jugé pour la mort de George Floyd.
Oui, un calvaire filmé par une passante qui a bouleversé le monde entier et entraîné le mouvement Black Lives Matter. Après 3 semaines consacrées à la sélection des jurés, les débats de fond ont pu commencer aujourd'hui. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le temps fort de cette journée, c'est la diffusion de la fameuse vidéo.
Oui, elle a été diffusée en intégralité dès ce matin par le procureur. Nous allons vous prouver que M. Chauvin n'est pas innocent, explique Jerry Blackwell. Il a trahi son serment avec un usage excessif et déraisonnable de la force sur le corps de M. Floyd. Derek Chauvin est présent dans la salle d'audience. On l'a vu regarder cette vidéo ce matin, ne montrant aucune émotion et prenant quelques notes sur un carnet. Les jurés restent anonymes, ils n'apparaissent pas à l'écran alors que le procès est diffusé dans tout le pays. L'avocat de Derek Chauvin va lui tenter au cours des prochaines semaines de prouver que George Floyd n'est pas mort à cause de cette arrestation, mais après une overdose, il demande aux jurés de s'en tenir aux faits. Il n'y a pas de cause politique ou sociale dans cette salle d'audience, souligne Eric Nelson. Les preuves sont bien plus importantes que 9 minutes et 29 secondes. Les proches de George Floyd se sont réunis ce matin devant le palais de justice de Minneapolis. L'avocat de la famille parle d'un procès historique pour l'Amérique. Un rassemblement conclu par un geste symbolique. Ils se sont agenouillés tous ensemble pendant près de 9 minutes.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'est un jour historique pour les salariés américains d'Amazon. Le vote pour ou contre la création d'un syndicat dans un entrepôt du groupe dans l'Alabama, qui serait le premier aux États-Unis. Ce vote s'achève aujourd'hui après plus de 5 mois de campagne. Le décompte des voix doit commencer demain. Tandis qu'en Allemagne, eh bien, les salariés d'Amazon, toujours, sont en grève, eux, pour dénoncer leurs conditions de travail.
C'est officiel. Le nom de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing sera accolé à ceux des musées d'Orsay et de l'Orangerie à Paris.
Oui, un ajout adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. François Mitterrand avait sa bibliothèque. Jacques Chirac, lui aussi, avait déjà un musée, celui du Quai Branly. C'est une façon, en fait, de rendre hommage à l'investissement et à l'engagement de ces anciens chefs d'État, en accord, bien sûr, avec leur famille. Louis Giscard d'Estaing, d'ailleurs, s'en félicite.
Bien évidemment, c'est une émotion particulière que nous partageons, toute la famille, une grande fierté. Cette nouvelle dénomination, c'est l'occasion de rendre hommage à l'action politique et à l'action culturelle menée par Valéry Giscard d'Estaing pendant son septennat et au-delà, puisque c'est la reconnaissance pour le musée d'Orsay du fait qu'il en a été l'initiateur et qu'il a permis la création ainsi d'un magnifique musée du 19e siècle au cœur de Paris. Dans cette gare d'Orsay, dont il était envisagé quand il a été élu président de la République, qu'elle soit démolie éventuellement. Et donc, c'est la reconnaissance au niveau national, je dirais même au niveau international, du fait que la création du musée d'Orsay doit à Valéry Giscard d'Estaing d'être aujourd'hui ce que c'est devenu, c'est-à-dire un fleuron du rayonnement culturel français.
Louis Giscard d'Estaing, le fils de l'ancien président, joint pour Europe 1 par Hélène Terzian.
Merci Isabelle Millet, c'était le journal d'Isabelle. On vous retrouve demain évidemment à 18h dans Europe Soir. La météo avec Anissa et après la fraîcheur matinale, eh bien le thermomètre va grimper demain.
Oui, il s'envole,
c'est
même
l'été.
Presque.
Hein. C'est l'été.
Effectivement, une journée digne du mois de juin demain. Alors nous aurons sur les Ardennes des petites gelées matinales demain. Pensez à vous couvrir. Un peu de fraîcheur en Provence avec seulement 2 à 5 degrés. Puis 6 à 11 degrés sur le reste du pays. Dans l'après-midi, c'est dans le sud qui fera le plus frais avec 17 degrés à Perpignan, 18 degrés pour Montpellier, 20 à Marseille, 22 à Lille, 24 pour Paris, 26 à Bordeaux et la maximale de 27 degrés prévue pour Mont-de-Marsan. Alors dans le ciel, c'est très simple, c'est du soleil partout pour tout le monde dès le lever du jour. Nous aurons dans le sud du golfe du Lion jusqu'à la Côte d'Azur et en Corse, donc vraiment pour les régions situées au bord de la Méditerranée, des entrées maritimes, vous connaissez, vous êtes habitués dans ces régions et ces entrées maritimes vont vous apporter un petit peu de grisaille, un petit peu d'humidité avec le vent d'Otan qui souffle jusqu'à Toulouse et jusqu'à 60 km/h. Alors profitez-en bien de ces températures qui grimpent parce qu'on risque de chercher les eaux de Pâques avec des écharpes et des bonnets.
Enfin bon, ah oui, carrément. Donc des écharpes
va,
et des bonnets.
Ça va bien baisser.
Bon.
Enfin, je vous en redirai
c'est
plus
tout
fin de semaine.
Vous n'avez rien à dire?
Non, c'est
non
bon, je termine non sur cette
bon,
bonne
très
nouvelle.
Bien. Votre week-end s'est bien passé, non?
Merveilleux.
Bon, très bien. Merci, ma chère Anissa.
À
on
demain.
Vous retrouve demain, évidemment, à partir de 18h. Alors, dans quelques secondes, le grand débat sur la folie des paris en ligne. Vous restez avec nous, avec nos invités. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. D'abord, la carte blanche, avec, comme chaque lundi, l'écrivain Philippe Besson.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes un c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir, cher Philippe.
Bonsoir, Julien.
Je ne savais pas si je devais dire mon cher ou cher Philippe. Voilà, donc bonsoir, cher Philippe. Vous évoquez Xavier Bertrand ce soir, qui vient donc d'annoncer qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. On en a parlé. Et visiblement, vous vous interrogez, vous, sur cette candidature.
Oui, alors commençons par dire que cette annonce a été tout sauf une surprise. Hein. Le teasing durait depuis des mois. D'abord, il y pensait, ensuite il se préparait. Donc ça y est, il se jette dans le grand bain. En réalité, la seule surprise vient du timing. Nous prenons en ce moment de plein fouet la troisième vague du Covid. Était-ce le moment opportun? Au mieux, les électeurs vont s'en moquer car ils ont l'esprit ailleurs. Au pire, ils vont trouver ça déplacé. D'autant qu'en octobre dernier, l'intéressé lui-même disait qu'au vu du contexte, il était décalé de parler de candidature. Personnellement, j'ai pas l'impression que le contexte se soit amélioré. Mais Xavier Bertrand a besoin de s'imposer à son propre camp. Il accélère donc pour griller la politesse à Laurent Wauquiez ou à Valérie Pécresse. Est-ce que ça marchera ? Pas sûr.
Alors, cela étant, Philippe, il a des atouts non négligeables. Il est président de région, il a été plusieurs fois ministre, il a dirigé l'UMP, l'ancêtre des Républicains. Ce n'est pas rien ?
Non, c'est pas rien. Il a appartenu effectivement à plusieurs gouvernements, mais les esprits chagrins font remarquer qu'il était ministre de la Santé au moment du Mediator et que c'est lui qui a mis en place la tarification à l'acte dans les hôpitaux, source de tant de nos maux, il va falloir assumer. Et il dirige en effet les Hauts-de-France, où Sébastien Chenu, son concurrent Rassemblement National, l'accuse d'ailleurs d'avoir brassé du vent depuis 6 ans. Et là, on peut s'interroger. Il se représente. Or, en 2015, il avait vertement reproché à Marine Le Pen d'être à la fois candidate à la région et à la présidentielle. 6 ans après, voilà qu'il fait exactement la même chose. Il expliquait hier sur cette antenne qu'il n'y avait rien de pire que le décalage entre la parole et les actes. Bah, il ferait bien de commencer par s'appliquer ce principe à lui-même. Et s'il est réélu, on a compris qu'il ira s'occuper non pas de la région, mais de son destin personnel. Les gens du Nord pourraient considérer que cela témoigne d'un certain dédain à leur égard, voire d'un certain mépris.
Alors, il entend occuper le créneau d'une droite à la fois sociale et sécuritaire. Il en a parlé ici même à ce micro hier dans le Grand Rendez-vous. Or, on sait que ce courant recueille pas mal de suffrages dans l'opinion. C'est donc un bon positionnement. Je parle de politique, évidemment, là.
Oui, enfin, le problème, c'est qu'il a souvent eu des positionnements successifs et des sincérités contradictoires. Xavier Bertrand, rien qu'en 2017, il a soutenu François Fillon mordicus jusqu'au bout, avant de quitter avec fracas les Républicains. Difficile de s'y retrouver. Prenez l'Europe, il a voté non à Maastricht, mais oui à la Constitution européenne. Là encore, on a du mal à suivre. En tout cas, le programme qu'il a esquissé tourne autour de 3 thèmes clairs. La restauration de l'autorité, la valeur travail, la réforme de l'État. Mais dites-moi, ça vous rappelle pas quelque chose ? Mais si, Julien, voyons. Le programme de Nicolas Sarkozy en 2007. Reconnaissez que ce n'est pas d'une ébouriffante originalité ni d'une folle modernité. D'autant que la comparaison peut rapidement lui être défavorable. Nicolas Sarkozy avait du talent et du charisme. Il en faut pour être président de la République. Or, un ténor de droite, cité dans Le Point, dit de Xavier Bertrand, son problème, c'est qu'il a la gueule du type qui vient réparer la photocopieuse. Vous voyez comme les gens sont méchants, enfin surtout les amis.
Alors sur les trahisons, je ne sais pas si vous avez vu Quai d'Orsay, moi je ne me souvenais pas de cette citation, Tavernier, diffusée hier sur France 2, une trahison c'est un acte d'amour, dit-on en politique. Donc vous pensez, pour terminer mon cher Philippe, qu'il n'a aucune chance pour 2022 ?
Ah non, je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, certains sondages le créditent de 16% au premier tour, c'est pas mal du tout, mais je ne peux m'empêcher de constater que dans sa déclaration de candidature, il n'a pas dit un mot, par exemple, sur l'enjeu climatique. Rien non plus sur la jeunesse, rien sur l'éducation. L'avenir ne semble pas être sa première préoccupation. Du reste, son profil de baron de province, ayant occupé tous les postes, a un côté très ancien monde. Mais enfin, si les Français sont saisis d'une bouffée de nostalgie et ont à nouveau envie d'un président normal, alors il peut créer la surprise, et cette fois pour de bon.
Merci Philippe.
De rien,
pour
Julien.
Cette carte blanche.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h21, alors ce soir dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse, je le disais, à la nouvelle folie des paris en ligne qui affiche des niveaux records sur l'année écoulée. Paris sportif, paris hippique et puis le poker en ligne aussi. Depuis l'ouverture à la concurrence il y a maintenant plus de 10 ans, on n'avait jamais autant parié en France. Les opérateurs d'ailleurs se multiplient, on va en parler, et font preuve d'une extrême ingéniosité pour attirer de nouveaux clients. Campagne de pub, application ludique destinée aux jeunes, et ça marche très fort. En un an, on compte plus d'1 million de nouveaux joueurs. Alors comment expliquer un tel essor ? À qui profite ce succès ? Et comment éviter aussi les problèmes d'addiction ? C'est important, notamment chez les plus jeunes. On en parle donc ce soir avec nos invités. Emmanuel de Rohan-Chabot, bonsoir. Vous êtes
bonsoir.
Le président fondateur de Ziturf Zibet. On en parle avec Benoît Elbrun, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de marketing à l'ESCP Business School, auteur de « Je consomme, donc je suis » aux éditions Nathan. Auteur également de « L'obsession du bien-être », notamment aux éditions Robert Laffont. Et puis on en parle avec vous, Amine Beniamina, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse et président de la Fédération française d'addictologie. J'ai commencé par vous, Emmanuel de Rohan-Chabot. Une question très simple. Est-ce qu'on peut vraiment faire fortune et gagner de l'argent grâce à ces paris en ligne aujourd'hui ?
De qui parlez-vous ? Des joueurs ou des opérateurs ?
Plutôt des joueurs dans un premier temps. Et puis après, pour les opérateurs, ça, je pense que j'ai la réponse là-dessus.
Non, écoutez, pour les joueurs, on ne peut pas et on ne doit pas espérer faire fortune avec les paris en ligne. Les paris en ligne, c'est une distraction.
Oui.
Point à la ligne. Et par ailleurs, quand vous parlez de paris sportifs ou de paris hippiques, comme vous en parliez en introduction, les sites ne vous promettent jamais Contrairement au grand tirage de Loto ou autre, vous en faisiez d'ailleurs la publicité juste avant votre émission.
Pas moi personnellement, promettent... rassurez-moi.
Non, votre antenne, bien sûr. Qui promettent aux joueurs des gains qui leur permettraient tout à fait de changer de mode de vie.
Oui.
Un pari sportif ou un pari hippique, c'est un moyen de se distraire.
Oui.
En espérant gagner, bien sûr.
Oui, c'est quand même la finalité.
Mais c'est pas un moyen de changer de vie.
Mais c'est quand même
surtout
la finalité. On joue parce qu'on a l'espoir de gagner de l'argent. Faites-nous rêver quand même. Les plus grosses sommes qui sont touchées par des petits joueurs, ça peut s'élever jusqu'à combien ?
Ça peut s'élever jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais c'est extrêmement rare, parce que ce sont des paris combinés, complexes, qui portent sur toute une série d'événements.
Oui.
Donc il faut avoir raison sur plein de questions, et c'est un événement très rare.
Bien. Et c'est quoi la mise de base pour ces petits parieurs ?
Alors la mise de base unitaire, c'est quelques euros.
Quelques euros, bien. L'idée, c'est de pas multiplier les quelques euros, sinon on investit beaucoup plus que ce qu'on gagne. On va en parler, évidemment. Benoît Helbrun, comment se fait-il que cette pratique, depuis un an, est en plein boom ? Je redonne les chiffres, hein, 717 000 nouveaux joueurs actifs supplémentaires sur un total de 3,5 millions de joueurs actifs, avec un chiffre d'affaires annuel pour le secteur qui progresse de 22%, qui atteint 1,74 milliard d'euros. C'est absolument colossal. Il y a les paris sportifs, il y a les paris hippiques, et puis il y a la nouvelle tendance du poker en ligne qui cartonne véritablement. Comment on l'explique ça ?
Alors en fait, il y a plusieurs motivations. Hein. Il y a une enquête qui a été faite par l'Autorité nationale des jeux, hein, qui montre que, contrairement à ce que dit monsieur, la première motivation, c'est quand même l'attrait du gain monétaire pour près de 60% des gens. Et j'aurais quand même rappelé, pour que les choses soient claires, que 85% des joueurs ont été perdants dans un pari sportif, d'accord, l'année dernière, et seulement 1,5 joueur sur 10 000 a gagné plus de 12 000 euros, ce qui correspond à 1 000 euros par mois. Mais justement, l'ambiguïté, on va dire, du système, c'est quand même de faire croire aux gens, non pas qu'on va gagner sa vie avec le pari sportif, mais qu'on va avoir un gain, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'aubaine. Après, il y a effectivement la force de l'habitude. Donc ça, c'est une question qu'on va traiter sur l'addiction. C'est-à-dire que quand on rentre dans le cycle, notamment quand on est jeune ou adolescent, c'est très très difficile de s'en sortir. Mais ça, monsieur va en parler mieux que moi.
On a des témoignages d'auditeurs et d'auditrices.
Et après, il y a le fait qu'évidemment, de façon plus conjoncturelle, je pense que les gens s'ennuient, qu'ils disent la volonté de se changer les idées par rapport au contexte actuel.
Oui. 20%. Mais clairement, pour répondre à ma question, le confinement, les confinements, le couvre-feu, ça a joué aussi sur la multiplicité des parieurs ?
Il me semble, parce que le confinement, en fait, crée une situation d'isolement. Et cette situation d'isolement, on le sait, conduit à des logiques addictives, que ce soit l'alcool, la cigarette, ou que ce soit le jeu.
Rassurez-moi, ce n'est pas parce qu'on joue un peu qu'on devient forcément addictif.
Non, mais simplement, je pense que n'oublions pas que le capitalisme, de façon générale, est une machine à fabriquer de l'addiction.
Bien. Bon. Ça, c'est un point de vue ou c'est un fait ?
C'est une analyse, que je ne suis pas le seul à partager. Il y a plein de philosophes qui ont travaillé sur cette question.
Bien. Amine Benyamina, c'est vrai qu'on observe un boom depuis un an maintenant, notamment sur l'année 2020. Pour vous, factuellement, c'est clairement l'impact du rester à la maison qui a suscité des vocations de joueurs ?
Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la définition même de l'addiction. On a les éléments pour avoir des personnes qui finiront addictives. Toutes ne le seront pas. On aura des joueurs, on aura des prises de risques, notamment des risques financiers et peut-être des risques conjugaux ou familiaux. Mais la définition d'addiction, c'est la rencontre entre une personne, un produit, un environnement.
Pardon, vous allez un peu vite. On va en parler de l'addiction, mais avant ça, il y a quand même une notion de plaisir. On peut jouer un peu sans forcément être addictif.
C'est ce que j'allais en train de... On a les éléments actuellement qui expliquent ce que vous avez dit tout à l'heure. Plus d'un million et vous avez signalé depuis un an. Donc, on est derrière nos écrans, on est isolé et donc on essaie de trouver à la fois des éléments pour casser l'ennui et en même temps des éléments de plaisir parce qu'à l'extérieur, ça ne va pas très bien. Que les choses soient claires, le support numérique est un support qui a rendu intelligents nos jeunes. Ils sont plus intelligents que nous à la même époque lorsqu'on avait leur âge. C'est la vérité.
Plus intelligents.
Absolument.
C'est quoi plus intelligent ? C'est passionnant ce que vous dites.
Évidemment, je veux dire, il y a des outils d'émancipation intellectuelle que vous n'aviez ni vous, ni encore moins moi à leur époque. Donc c'est une réalité. Il ne faut pas, tirer sur la digitale éducation.
Oui.
Et ça, c'est une erreur. En revanche, il y a des effets pervers comme tout médicament, comme tout, sur lesquels on peut faire on peut réduire les risques. Mais les jeunes, actuellement, ont une capacité cybernétique qui est plus importante que la nôtre Bien. À leur époque.
Alors, on va en parler justement des outils numériques, parce que c'est ça aussi qu'a accentué la demande et la facilité avec laquelle on peut jouer aussi et parier en ligne. Poker, paris sportif, paris hippique. Et on verra que dans le pari sportif, maintenant, on peut parier sur absolument tout. A tout de suite, 19h28.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, on poursuit le débat du Club des Idées. Et ce soir, on s'intéresse à la nouvelle folie des paris en ligne qui affiche, je le disais, des niveaux records sur l'année écoulée. Et ça continue hein, depuis le début janvier avec les paris sportifs, les paris hippiques et puis le poker en ligne aussi qui séduit maintenant de nouveaux publics et notamment chez les jeunes. Et on est notamment en ligne avec Emmanuel de Ronchabot, président fondateur de The Turf, The Bet, je vais arriver à le prononcer, je le prononçais à l'anglaise. Vous êtes toujours avec nous. On évoquait l'arrivée du tout numérique qui a fait qu'on est passé du bureau de tabac aux applications spécialisées. Est-ce que c'est ça aussi qui a favorisé la démocratisation de ces paris ?
Il y a deux choses. Vous décriviez tout à l'heure, une des raisons de l'essor de l'année dernière prouve à mon avis que pour l'immense majorité des joueurs, le jeu est une distraction. Il faut ramener les choses à leur proportion. Personne ne niera, et on en reparlera sans doute, s'il y a une autorité nationale des jeux qui surveille et qui encadre ce marché, personne ne niera qu'il y ait une frange de la population qui puisse tomber dans l'addiction et sur laquelle on doit être extrêmement vigilant.
On a entendu votre point de vue. Mais sur la numérisation, c'est intéressant parce que vous travaillez sur le secteur, donc j'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est ça qui a favorisé aussi la démocratisation du pari en ligne ?
Ah oui, bien sûr. Oui. Ce qui s'est passé l'année dernière, si vous voulez, c'est que les distractions se sont extraordinairement taries. On ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus aller au bar. Et ces jeux sont une distraction. Et l'immense majorité des clients dépensent en moyenne 80 euros par mois, donc on est bien dans un budget de distraction. Oui, par ailleurs, quand on a fermé, en effet, les restaurants, quand on a fermé les bars, il y a eu la fermeture d'une immense majorité des points de vente du PMU, en ce qui concerne le Paris Hippique ou de la Française des Jeux. Donc ça a considérablement accéléré le basculement du jeu physique dans des points de vente vers le jeu numérique.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui jouaient dans les points de vente qui se sont mis à utiliser les applications des opérateurs de paris, quels qu'ils soient.
Oui.
Donc ça a accéléré le basculement, oui, bien sûr.
Mais ces applications, on ne va pas se mentir, il y a aussi un effort de design, il y a des campagnes de publicité, il y a les partenariats qui les accompagnent, il y a quand même une volonté de séduire notamment les jeunes, Benoît Elbrun. C'est une volonté de la part des opérateurs d'aller chercher de nouveaux clients.
Bien sûr, puisqu'on va aller chercher les gens les plus fragiles. Et sachant que la plupart des jeunes qui déclarent jouer en ligne, en fait, n'ont pas de gains de revenus qui expliquent en fait, le jeu. Donc, ça veut dire qu'on est dans une logique en fait, d'endettement symbolique. Et ça, c'est une vraie problématique, sanitaire.
On peut parier sur tout aujourd'hui ? À peu près.
Comme en Angleterre, on peut parier sur tout. Oui.
Sur les matchs de foot, sur le match de basket.
Oui, ou sur la mort de quelqu'un, ou sur la démission de quelqu'un, ou sur tout.
En France, on peut parier là-dessus.
En France, peut-être pas, mais je veux dire en Angleterre, donc ça arrivera un jour en France.
Bien.
Il n'y a pas de frontière sur Internet. Vous pouvez parier sur un système qui se trouve sur une législation qui permet ça ailleurs qu'en France.
Mmh. Ouais.
C'est le principe même du numérique. Hein. Il n'y a plus de frontière. Donc là-dessus, c'est clair. Pour ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que les opérateurs ne mettent pas en place un jeu pour simplement distraire les gens. Il y a quand même un pas du gain à l'extérieur qui est absolument important. Lorsque vous vendez un objet matériel dans une boutique, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas simplement pour habiller les gens.
Mais sinon, c'est comme si on disait que Disney, que Disney n'a des parcs d'attractions, ne fait des films que pour distraire les gens. Oui, le divertissement, c'est une valeur de Disney, mais il y a un business model qui est derrière.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que les leviers, parce qu'on va peut-être parler de la publicité, de la communication, sont exactement les mêmes que dans d'autres catégories, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des archétypes. Donc, par exemple, vous avez entendu parler de cette campagne d'héroïsation du jeune qui est le héros de sa communauté, qui est porté en triomphe devant les jeunes. Donc il y a la glorification de l'individu, ça c'est une valeur dominante d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension aspirationnelle en fait, de la communication de ces sites. Et puis, il y a une dimension communautaire extrêmement forte, c'est-à-dire l'appartenance. Donc, en fait, on joue sur des leviers anthropologiques, c'est-à-dire des éléments de l'idéologie dominante.
Alors,
ça fonctionne.
On est en ligne avec un parieur professionnel. On va lui demander son avis. C'est David Tenrel. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes fondateur d'un blog, hein, Parieur Pro. Vous êtes expert en pronostic football et en suivi de tipsters. C'est quoi ça, un tipster?
Alors, un tipster, c'est très simple. C'est une personne qui va proposer ses pronostics parce qu'en fait, trouver soi-même de bons pronostics, parfois, ça peut s'avérer un petit peu difficile de trouver de bons paris. Et un tipster, ça va être une personne dont le métier, alors il peut faire ça à temps partiel ou même à temps plein, comme un véritable métier.
C'est un consultant. Un consultant,
oui, c'est un consultant, oui, tout à fait.
Et pour revenir à la question que je posais tout à l'heure en début de débat, combien vous arrivez à gagner, à remporter, par mois, par semaine ou par an?
Alors là, c'est assez variable, en fait. On a une sorte de... on va dire qu'il y a la variance dans les paris sportifs, c'est-à-dire qu'il y a une part de chance, un petit peu comme un joueur de poker professionnel. Il ne va pas forcément gagner tous les mois la même chose ou tous les ans la même chose. Donc, c'est assez variable. Mais c'est quelques milliers d'euros chaque mois en moyenne sur une année. Quoi.
Oui, sur une année.
Oui, c'est ça.
Par mois. Donc, 12 000 euros à la fin de l'année.
Ah non, un peu plus quand même. Ça dépend. Ça va être une fourchette entre 10 et 50 000. Ça dépend.
C'est un salaire de consultant.
Oui, c'est un salaire de consultant.
Intéressant ce témoignage, oui. Julien, parce qu'on a affaire au contre-exemple absolu. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui sait pourquoi il va en ligne, pourquoi il parie, et qui a une entreprise dans laquelle il a les dépenses et les profits et les recettes. Il sait s'arrêter. Il ne va pas dans une espèce de faux plaisir comme décrit, mais il y va pour quelque chose de bien précis. C'est vraiment le contre-exemple du risque lié à la consommation, alors qu'on lui présente du plaisir et qu'il n'en est pas vraiment. Oui.
David, vous pariez sur quoi, vous, majoritairement? C'est plutôt le poker en ligne? C'est plutôt les paris hippiques, les sportifs? Et si oui, quel sport?
Alors non, moi c'est plutôt le football principalement. Le poker, c'était mon ancien métier. Avant, j'étais joueur de poker professionnel. Et les techniques pour gagner au poker sont très similaires à celles pour gagner au pari sportif. Donc ça m'a beaucoup aidé dans mon métier de parieur sportif aujourd'hui.
Attendez, comment ça, les techniques sont les mêmes? Le poker, c'est un jeu de cartes,
c'est
le pari sportif, c'est...
Mais non, c'est
un jeu... En fait, il y a énormément de similitudes entre le poker et les paris sportifs, et même avec le trading en bourse, hein, en plus. On va être dans une constante recherche de ce qu'on appelle une situation qui est value. Donc au poker, l'idée, ça va être de trouver des situations qui rapportent de l'argent sur le long terme. Et dans les paris sportifs, la technique pour gagner sur le long terme, c'est exactement la même. L'objectif pour un parieur... chevronné, on va dire, ça va être de trouver des cotes qui sont mal ajustées par le bouquin.
D'accord, mais donc vous faites de l'analyse de probabilité et de data, vous ne pariez pas sur votre club de cœur, par exemple.
Exactement, c'est voilà, parier sur son club de cœur, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire.
Ah bon, évidemment. Dites donc, c'est un peu triste, ça.
Ou alors juste pour le plaisir, on sait que c'est pas dans le but de gagner sur le long terme. C'est juste dans le but de se faire plaisir, ça c'est tout à fait possible. Mais là, on est vraiment dans le domaine du parieur récréatif.
Okay. Et moi, j'ai merci David pour
ce témoignage. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que par ailleurs, vous avez une activité? Est-ce que par exemple, comme Patrick Bruel, en plus du poker, vous poussez la chansonnette ou vous faites de l'huile d'olive ou vous misez uniquement là-dessus?
Réponse courte, David.
Comment?
Réponse courte, allez-y.
Alors non, je ne vais pas me mettre à la chanson pour l'instant, je crois que ça ferait du mal à beaucoup de personnes. Donc je vais en rester juste au pari sportif pour l'instant.
Merci en tout cas pour votre témoignage, on continue d'en parler avec nos invités, à tout de suite, 19h39.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h40, on poursuit le débat sur les paris sportifs, la folie des paris en ligne qui affiche, je le disais, des niveaux records sur l'année écoulée, le sportif, paris épique et puis le poker en ligne. On est toujours avec nos invités, notamment Benoît Elbrun, professeur de marketing à l'ESCP Business School, auteur de Je Consomme. Donc, je suis question pour vous sur le modèle économique de ces plateformes. Vous évoquiez tout à l'heure la publicité. Alors, il y a évidemment les paris sur lesquels les plateformes prennent des commissions. Et puis, il y a le marché de la publicité en ligne. Ça, c'est un gros vecteur de revenus.
C'est-à-dire que, en fait, il y a deux choses dans votre question. Il y a le modèle économique qui est fondé sur le fait qu'on a très, très peu de chances de gagner. Donc, de toute façon, l'annonceur va remporter la mise. Puis après, il y a le modèle publicitaire, le modèle marketing, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est fondée sur des archétypes et en fait sur des pulsions extrêmement narcissiques. C'est-à-dire ce désir en fait, qu'a créé une marque comme Nike de faire en sorte que chacun puisse devenir le héros du coin de la rue. Et en fait, on reprend cette rhétorique, sauf qu'on ne vend pas des chaussures, on vend de l'espoir. Et pas plus que l'Église catholique. Hein.
Je ne sais pas si l'analogie est juste, mais c'est la raison pour laquelle les sociétés de Paris font appel à des grandes stars. Je pense à Unibet, partenaire du PSG, qui met en scène Kylian Mbappé et Neymar. Il y a aussi des rappeurs, il y a aussi des influenceurs très populaires, qui est ambassadeur de Winamax,
donc
qui
est une autre plateforme de jeu en ligne. Ce sont des outils de légitimité. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que dans certaines campagnes, en fait, on voit qu'il y a une comparaison implicite qui est faite entre le joueur qui joue et celui qui joue sur le terrain. Mmh. Et d'ailleurs, il y a une marque qui est utilisée comme slogan, il plante des buts, tu récoltes du blé, ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui veut bien dire que dans la fabrique du héros, qui est le consommateur, on va utiliser l'analogie avec le sportif.
Ça, c'est un vrai danger, ça, Amine Benyamina. Vous êtes chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Broussard. C'est un vrai danger, ça.
Le danger, c'est dans cette masse globale de gens qui sont intéressés par le jeu et qui sont fascinés par des héros, les héros modernes, il y a des personnes vulnérables. On l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes jeunes, d'abord, vulnérables, parce que le contexte fait qu'elles vont commencer à consommer encore plus parce qu'elles sont enfermées à la maison, parce que l'accès est facile. Elles vont mentir sur leur âge, hein, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a quand même un rajeunissement hein, des joueurs en ligne. Et puis, tout est jeu en ligne. Donc, forcément, dans cette masse, on va avoir des gens qui vont être des naufragés, finalement, du jeu. Le plaisir se transforme assez rapidement en prison.
Il y a des publics qui sont plus à risque que d'autres
oui, bien sûr, il y a des
sur le caractère de l'addiction.
Complètement, il y a des publics. Les personnalités un peu renfermées, pour que tout le monde comprenne. Les jeunes, les problématiques de type narcissique, les subdépressions, les anxiétés, et des personnes qui deviennent des héros derrière l'écran, en quelque sorte. Donc, elles peuvent avoir des facteurs de vulnérabilité. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut avoir, dans le cadre
facteur
des addictions...
Facteur social aussi, je crois.
Bien sûr, on a,
je regardais
plus, moins on est argenté, et plus on a des risques de tomber dans le jeu.
Parce que moins on gagne d'argent, plus on est tenté de jouer à ces jeux.
On n'a rien à perdre.
Absolument, on n'a rien à perdre. Et puis, c'est l'espoir du big win, le grand gain. Et donc, on se retrouve aussi à avoir des choses qui sont souvent associés à ce type de pratique, c'est la consommation des produits. On a le jeu qui est une addiction sans produit, et on a la cigarette, on a l'alcool, et puis on peut avoir ce type de problématiques qui viennent se rajouter au risque à la fois financier et des insertions sociales.
Alors, on va peut-être donner la parole à Emmanuel de Rohan-Chabot, président fondateur de The Turf et The Bet, qui va répondre sur ce point. Que pouvez-vous répondre, Emmanuel de Rohan-Chabot ?
Alors, sur un certain nombre de points. D'abord, en France, on ne peut pas jouer sur tout. On peut faire du pari sportif, du pari hippique, du poker. Et pour chacun de ces secteurs de jeu, il y a un encadrement extrêmement strict fait par l'ANJ. C'est probablement le pays au monde où l'offre de pari est la plus étroite pour éviter des phénomènes de surjeu d'une part, et puis pour éviter de faire jouer les gens sur des compétitions qui pourraient être manipulées, etc. Et ça n'est pas vrai de dire qu'en France, on peut aller facilement jouer sur n'importe quel site à l'étranger, puisque vous avez toujours cette autorité qui bloque l'accès au site étranger.
Oui, oui.
Et qui donc protège. Et il y a un vrai travail de cette autorité des jeux. Et sur la publicité que vous évoquiez, et oui, il peut y avoir des publicités qui ont le tort de viser des publics particulièrement fragiles ou particulièrement jeunes. Si je vous parle de The Bet, la moyenne d'âge en pari sportif des joueurs de The Bet, elle est de 30 ans. Donc il faut pas non plus fantasmer sur le fait que ce soit forcément des gens très jeunes. En pari hippique, elle est d'ailleurs plus âgée, elle est de 45 ans. Et l'Autorité nationale des jeux encadre et a acquis des nouveaux pouvoirs dans le cadre des lois qui ont été votées l'année dernière.
Oui.
Elle a acquis des nouveaux pouvoirs de contrôle de la publicité des opérateurs qui sont en train de se mettre en place pour éviter les comportements déviants que décrivent vos deux autres intervenants. Bien. Oui, il peut y avoir des comportements déviants dans ce métier. Mais un des intervenants disait qu'on vendait de la distraction, mais qu'on la vendait, que c'était un modèle économique. Oui, bien sûr. C'est un modèle économique. Un patron de restaurant, il gagne sa vie en vendant des repas. Un patron de cinéma, il gagne sa vie en vendant des places de cinéma. Et un patron de site de jeu, il gagne sa vie en vendant une distraction qui s'appelle le jeu. Bien sûr, c'est un modèle
économique. Alors, merci pour ces précisions. Vous restez avec nous, c'est important de le rappeler. Merci d'avoir répondu. Je voudrais, pour qu'on comprenne bien aussi quand même, parce que c'est vrai que c'est un sujet de société important, le mécanisme addictif, donner la parole à un nouveau témoignage. Florian Léglise qui est avec nous. Bonsoir Florian.
Oui, bonsoir monsieur.
Bonsoir, vous avez 28 ans, vous résidez du côté de Bordeaux et vous êtes suivi par le comité d'études et d'informations sur la drogue et les addictions, alors, qui est une association de loi 1901 fondée en 72 à Bordeaux. Alors pourquoi vous êtes suivi? Parce que vous faites partie de ces jeunes qui sont devenus addicts aux jeux en ligne, c'est cela?
Non, aux jeux en point de vente.
En point de vente?
En point de vente, bureau de tabac uniquement.
Comment s'est fait ce mécanisme d'addiction? Est-ce que vous l'avez vu venir?
Alors, je ne l'ai pas du tout venu venir. Au départ, j'ai joué pour m'amuser en point de vente, pour me distraire, pour me trouver une distraction. J'ai fait la plus grande erreur, c'est d'avoir gagné.
Ah oui.
Et le point de bascule, quelques euros, j'avais gagné 1000 euros.
Ah oui. Oui. Et le point de bascule de l'addiction, vous l'avez vu arriver à quel moment?
C'est quand on n'a plus rien à perdre et que surtout, on s'est dit une fois, ça a marché pour 1 euro, qu'est-ce que ça va donner si je mise 10, 50 ou 100 euros?
Et aujourd'hui?
Alors forcément, à un moment donné, on regagne. On regagne 300 euros, 400 euros. Mais par contre, pour les gagner, ces 300 euros-là, on en a déjà perdu 4 ou 5 000.
Vous avez perdu beaucoup d'argent au total?
J'ai perdu environ 12 000 euros.
12 000 euros.
En 10 ans.
Bien. Merci Florian, je suis désolé, il nous reste peu de temps. Je voudrais faire réagir Amine Benyamina sur ce témoignage. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans l'addiction? Alors vous allez me dire, la meilleure solution, c'est de ne pas jouer. Mais quand on a envie d'essayer un peu, comment faire pour ne pas tomber dans l'addiction?
De toute façon, quand on propose des choses comme ça, c'est pour les essayer en quelque sorte. Donc pour ne pas tomber dans l'addiction, il faut avoir d'abord une petite idée sur des facteurs de vulnérabilité. C'est l'isolement, c'est la dépression, l'anxiété. Et puis des personnes qui peut-être ont eu dans leur passé un rapport à l'objet ou un rapport au comportement qui déjà était un rapport d'assuétude, c'est-à-dire assez rapidement, on se retrouve à refaire la même pratique. Ce qu'il faut avoir en tête, ce n'est pas le jeu finalement, ou le gain pardon, qui va configurer finalement celui qui sera ou non quelqu'un qui va répéter, qui va devenir addict. C'est tout ce qui est avant, c'est-à-dire c'est toute excitation, cette stimulation qui précède finalement le résultat. Que vous gagnez ou non, il y a d'une certaine manière, une répétition qui est inscrite dans le comportement. Si on perd, on se refait. Si on gagne, on va de nouveau retenter.
C'est exactement
retenter.
Ce que disait ce monsieur. Vous jouez en ligne, Benoît Elbrun?
Non.
Vous jouez tout court ou pas?
Pas du tout.
Bon.
Il n'est pas joueur.
Non. Pas joueur. Merci en tout cas à tous les trois. Pardon, on est obligé de s'arrêter là. Le temps qui nous était imparti est terminé. On pourrait continuer évidemment de longues minutes. Merci pour ces explications et pour ce décryptage.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous dans quelques secondes, on poursuit avec les archives d'Europe Soir. Et ce soir, retour en 89, on vous parlera de la disparition d'un grand monsieur du cinéma. Encore un, l'acteur Bernard Blier. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du Club des Idées et les archives d'Europe Soir, quand le passé éclaire l'actu, 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà.
Bonsoir Diane Chénouda.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors ce soir avec vous, on remonte au 29 mars 1989, le jour où on apprenait la disparition d'un monstre sacré du cinéma, Bernard Blier.
Oui, c'était l'un des plus grands acteurs de son époque, hein, bien sûr, au cinéma et au théâtre aussi. Bernard Blier, évidemment, indissociable des tontons flingueurs, évidemment.
Il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on regarde à vous.
On ne s'en lasse pas, hein,
il
évidemment.
Il connaît pas Raoul, celui-là.
C'est excellent, c'est excellent. Et alors, il a tourné évidemment avec les plus grands, hein, Blier, Marcel Carné, Renoir. Il explose dans les années 60 avec Lautner et les répliques cultes de Michel Audiard, on vient de l'entendre. Blier, l'homme à la pipe, hein, bourru, drôle, avec cette gouaille évidemment. Alors, il a tout joué, hein, les rôles comiques comme dramatiques, avec ce besoin de toujours tout remettre en question, comme il le confiait à Christian Barbier, c'était en 71.
C'est jamais fini, vous savez, on n'est jamais en place.
Je ne crois pas aux acteurs en place. Il y a le mot célèbre, il est arrivé, oui, mais dans quel état?
Oui.
Mais non, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il faut à chaque fois se bagarrer, recommencer.
Vous êtes sincère quand vous me dites
ça?
Ah
oui, je vous jure, je vous donne ma parole.
Bernard Blier, qui était aussi un grand acteur de théâtre.
Ah oui, oui, oui. Même s'il a été très accaparé par le cinéma, Blier était accro au théâtre.
Le théâtre, c'est un truc dont on ne peut pas se passer. Et puis c'est une espèce de cam, vous comprenez, c'est une drogue. Là, en ce moment, je suis un peu en manque. Parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas joué.
Oui.
Et alors je me dis que si je ne joue plus, enfin d'ici un an ou deux, je n'oserai plus jamais rejouer. Alors je ne veux pas me passer de ma chenouf, vous comprenez, je ne veux pas tout perdre.
Voilà la gouaille de Bernard Blier qui, là encore, est au micro de Christian Barbier en 71. 10 ans plus tard, il triomphe sur les planches avec la pièce Le nombril de Jean Anouilh. Écoutez Brigitte Salineau en parler dans Barbier de nuit.
Cette pièce sans Bernard Blier, je crois que... Je ne sais pas s'il aurait le triomphe qu'elle a maintenant, parce que sa paupière tombe et la salle est à genoux, quoi. Alors, il est là, sur scène, avec sa robe de chambre, et il ne bouge pratiquement pas. Il dit ses paroles, et tout le monde est complètement séduit sous le charme.
Elle aussi, hein, sous le charme de Blier. Le talent comique de Blier à la scène, donc, comme à la ville.
Il n'y a rien qui m'amuse autant comme les gens qui font des métiers ennuyeux, à mes yeux, et qui me demande « ça vous ennuie pas de faire tous les jours la même chose ?» Un jour, il y a un douanier qui m'a demandé ça. il m'a dit « ça vous ennuie pas de faire tous les jours la même chose ?» Alors là, j'ai pris un coup de sang, j'ai dit « bah, et vous, qu'est-ce que vous foutez? Vous m'emmerdez. Vous, toute la journée, vous dites « vous n'avez rien à déclarer. Quand est-ce que ça change ?» Du coup, il m'a fait ouvrir mes bagages et ça s'est passé très mal.
Ça me fait rire. Bernard Blier qui va recevoir des mains de Michel Serrault en 89, quelques semaines avant sa mort, un César d'honneur pour toute sa carrière. Il est très amaigri, la séquence est bouleversante.
Merci à vous tous, je vous connais tous et je suis très heureux de vous dire que ce soir je suis particulièrement ému.
Moi aussi je suis particulièrement ému.
Ce même mois de mars 89, Bernard Blier est emporté par la maladie, le cinéma est en deuil. L'hommage de Marlène Jobert au micro de Jean-François Rabillou.
Moi, ce que j'aimais bien chez lui, c'était... Bon, il savait faire rire, c'est vrai, mais il savait émouvoir aussi. Il savait être sérieux, grave, tendre, sensible. Et toujours le mot pour rire, le mot chaleureux, c'était un bon vivant qui aimait d'abord la vie avant le cinéma.
Voilà l'hommage de Marlène Jobert à Bernard Blier qui était très fier de son fils Bertrand, l'auteur à succès bien sûr des Valseuses et pour qui il avait notamment joué dans Buffet froid.
Merci Diane Chénouda pour ses archives et ce récit. Bernard Blier, acteur monument du cinéma français et du théâtre.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57, dans un instant le rappel de l'info avec Julien Pierce et puis Émilie Mazoyer pour la musique. Salut Émilie.
Salut Julien.
Quel est le programme ce soir?
Alors,
de l'émission?
Ce soir, on reçoit un surdoué, un artiste électro français qui s'appelle Rhône et qui a sorti un album avec tous ses amis. Il y a les voix de Dominique A, Yael Naïm, Camélia Jordana ou encore l'artiste anglaise Georgia. Toutes les musiques sont signées Rhône et ensuite à chaque chanson, il y a donc la particularité d'avoir le collaborateur, le chanteur ou la chanteuse qui l'a choisi. Donc c'est un très joli album, Rhône and Friends, et il va venir nous en parler.
Super, à tout de suite Émilie. On est au rendez-vous évidemment à l'écoute d'Europe 1. Merci de votre fidélité, à demain 18h.
Europe 1, écoutez le monde changer.